Eh bien, bonjour à chacun. C'est un petit peu fort, hein, ça résonne. Voilà, donc aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de prédications dans l'Ancien Testament. Et ce sera au niveau du livre du prophète Malachi. Malachi, c'est le dernier des prophètes dans l'ordre du canon biblique de l'Ancien Testament. C'est aussi le dernier des prophètes chronologiquement, parmi ceux qui ont été reconnus comme pleinement inspirés par Dieu. Le judaïsme a reconnu lui-même que dans les siècles qui ont suivi, il y a eu certains autres prophètes, entre guillemets, plus ou moins véridiques, mais il n'y en a pas eu qui eut le mérite de figurer dans la Bible elle-même. Il n'y en a pas eu d'autres pleinement autorisés par Dieu. Malachi, prêche comme un boxeur boxe. C'est le professeur Henri Blocher qui utilise cette image pour caractériser ce livre du prophète Malachi. Malachi est direct. C'est un prophète qui polémique avec ses auditeurs. Il est réaliste. Il appelle un chat un chat. Et il y va très fort, direct du droit, direct du gauche, comme un boxeur. Et donc, je vous invite tout de suite pour commencer à écouter le début du livre, les versets 1 à 5, que je vais lire dans la traduction du Semeur. Proclamation, parole que l'Éternel a adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachi. « Moi, je vous ai aimé, déclare l'Éternel. Et vous me demandez, en quoi donc nous as-tu aimé ? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob ? demande l'Éternel. Or, j'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. J'ai fait de ses montagnes un pays désolé et j'ai livré son patrimoine aux chacals du désert. Édom peut bien dire, nous avons était démoli, mais nous rebâtirons ce qui n'est que des ruines. Mais le Seigneur des armées célestes déclare, « Eux, ils rebâtiront. Moi, je démolirai. On appellera leur pays le territoire de la méchanceté, le peuple contre qui toujours l'Éternel sera en colère. Et vous le verrez de vos yeux, et vous direz, « L'Éternel est très grand, même au-delà du territoire d'Israël. » Voilà le début du livre, très direct. Et dans son livre, ce prophète Malachi, nous avons une succession de scènes d'affrontements directs entre le prophète et ses compatriotes dans le royaume de Juda. Il lance des arguments et il les reprend. Il répond comme dans un match de boxe. On ne sait pas exactement à quelle date se passe ce match. Peut-être entre 450 et 430 avant Jésus-Christ. On pense que cela se passe sensiblement à la même époque où Esdras et Néhémie ont dû lutter pour essayer de corriger les scandales les plus évidents à propos des dîmes, à propos des mariages, à propos de la manière dont tout se passait à l'époque. Peut-être savez-vous que Esdras était un théologien et un scribe très érudit. Il a été envoyé déjà pour faire certaines réformes et prendre la mesure de la situation. Néhémie également, quant à lui, était un haut fonctionnaire de la cour de l'empereur de Perse. Et d'ailleurs, le groupe de dames, je crois que cette année, étudie aussi le livre de Néhémie, donc c'est intéressant. Et en apprenant que les choses s'étaient dégradées dans la ville de Jérusalem et que c'était un peu la pagaille, eh bien, Néhémie a obtenu de son empereur, l'empereur de Perse, de l'autorisation de partir en mission spéciale dans cette province éloignée. Et Néhémie a été pendant 12 ans le gouverneur de Jérusalem de 445 à 433 avant Jésus-Christ. Et il y est retourné une deuxième fois car la situation s'était encore un peu plus dégradée et on pense que Malachi, le prophète objet de ce livre, est intervenu dans cette période-là. Donc vous situez Esdras, Néhémie et puis Malachie. L'intérêt du livre pour nous vient de son style si pratique et si net dans tous ses énoncés, intérêt qui vient de la liberté aussi dans les échanges. L'intérêt vient aussi de ce que les comportements malheureux et les attitudes qui ne plaisaient pas à Dieu dans ce peuple ne sont pas sans ressemblance, sans parallèle avec ce que l'on a pu voir, ce que l'on peut peut-être encore voir dans l'Église chrétienne au sens large, même aujourd'hui. Mais je ne parle évidemment pas de notre Église, ce n'est pas possible. Vous croyez ? Ça ne vous fait même pas réagir. Alors que j'insiste. L'Église chrétienne aujourd'hui, dans nos pays, et en tout cas dans le passé, comme le peuple à Jérusalem, n'est pas en situation de persécution. Elle n'est pas pourchassée ni écrasée par l'envahisseur, même si malheureusement on a des mouvements militaires ces derniers temps, ces derniers jours. Les grands traumatismes de l'exil, la famine, ce sont des choses très graves, c'était des souvenirs du passé pour le peuple d'Israël, à ce moment-là, en 450 avant Jésus-Christ. Et de même pour l'Église, dans nos pays, il n'y a pas de drame extrêmement aigu. Dans nos pays, j'entends du monde occidental, hein. Il y a malheureusement des pays plus éloignés où l'Église vit vraiment des cauchemars. Eh bien, dans nos pays, eh bien, il n'y a pas de drame extrêmement aigu. Mais en même temps, la situation n'était pas brillante. Il y a des négligences, il y a des compromis. On ne va pas franchement vers l'idolâtrie, comme c'avait été la tentation d'Israël dans les siècles précédents. Le peuple a compris la leçon de l'exil. Quand même, Dieu a envoyé son peuple en exil à cause de ses dérives. Mais le culte est devenu, du temps de Malachie, un culte formel. Un culte extérieur, un culte un peu négligent. Et on peut facilement faire des compromis avec le paganisme. Alors venons-en au premier dialogue des versets 2 à 5 de notre texte. Un dialogue au sujet de l'élection d'Israël. Ça veut dire quoi l'élection d'Israël ? Eh bien, c'est que Dieu avait choisi, avait déclaré à son peuple qu'il le choisissait. Dieu a choisi le peuple d'Israël. Son peuple choisi entre tous, parmi tous les peuples de la terre, pour lui appartenir en propre. Et c'était l'expression de l'amour de Dieu pour ce peuple et pour sa lignée. Ça remontait en particulier au choix de Jacob, parmi les deux fils d'Isaac, plutôt Jacob qu'Ésaü, alors qu'Ésaü avait le droit d'aînesse à l'époque, selon la coutume de l'époque. Il aurait dû avoir la primauté. Bien non, Dieu avait choisi le second fils. Dieu avait dit, j'ai aimé Jacob, j'ai choisi Jacob. Donc, c'est sa lignée qui héritera de la promesse. J'ai écarté Ésaü, c'est dans la traduction du Semeur que j'ai lu, mais si vous regardez une traduction seconde un petit peu ancienne, eh bien, il est dit que j'ai eu de la haine pour Ésaü. Donc, et de ce peuple issu d'Ésaü, c'est le peuple d'Édom, Dieu n'a pas choisi ce peuple-là. Il a choisi Jacob. Et il leur dit, « Mais je vous ai aimé, je vous ai aimé, déclare l'Éternel. » Et le combat de boxe, c'est que, en fait, le peuple dit, « Mais, et vous me demandez, en quoi nous as-tu aimé ?» Le peuple ne comprend pas, il ne se sent pas aimé. Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, dit Malachie. Mais j'ai aimé Jacob, j'ai écarté Ésaü, j'ai fait de ces montagnes un pays désolé, nous y reviendrons. Vous voyez la bagarre, il y a cette vérité qui est proclamée depuis le temps de Moïse, et même avant, Dieu avait en effet choisi cette lignée, et il y a maintenant le peuple qui ne reconnaît pas cette élection. Et les gens autour de Malachie disent de manière peut-être un peu blasée, « Ouais, ça nous a fait une belle jambe qu'il nous ait choisi. » En fait, nous trimons tout le jour. La vie n'est pas drôle du temps d'Esdras Néhémie. la vie n'est pas drôle. Qu'est-ce que c'est que cette élection dont Malachi nous parle, dont Dieu nous parle? Qu'est-ce que c'est que ce choix? Qu'est-ce que ce prétendu amour de Dieu pour nous? Voilà la réponse qu'il donne à Dieu. Et le prophète réplique en affirmant le choix de Dieu et en affirmant que la différence va se voir. Que fait l'élection divine? Que fait ce choix de Dieu pour son peuple? Le fait est que dans l'histoire, c'est Israël qui subsiste, alors qu'Édom, les descendants d'Ésaü, eh bien, c'est un peuple qu'on a oublié, dont on ne parle plus. Édom n'existe donc plus comme peuple. Pour ceux qui ont fait un peu de tourisme en Palestine, vous pouvez aller visiter un site qui s'appelle Petra, qui n'est pas en Palestine, qui est plutôt en Jordanie. Et Petra, c'était le lieu du peuple d'Édom à l'époque, bien avant. Et ceux qui ont visité Petra, vous voyez, vous avez des ruines magnifiques, des palais qui sont sculptés, sans marteau-piqueur à l'époque, hein, dans des falaises rocheuses. C'est magnifique, nous on a eu l'occasion de le voir, c'est fantastique. Eh bien, il n'y a plus personne qui habite là. Il n'y a plus personne, c'est un peuple oublié. Et quand on regarde une tranche d'histoire superficiellement, comme le faisaient les Israélites à l'époque, il peut sembler que l'élection, ce choix de Dieu, ce n'est que des mots et que finalement Dieu n'agit pas pour eux. Le regard peut s'accrocher à des faux semblants, surtout lorsque ce regard n'a pas de discernement dans l'histoire. Mais finalement, Dieu s'affirme comme celui qui est grand, le grand Seigneur. C'est les mots qui terminent notre passage qu'on a lu. Et le grand Seigneur, précisément, marque la différence dans l'histoire. Voilà ce que réplique le prophète. Le prophète réplique « Non ». Et je pense que cela peut s'appliquer à nous facilement aujourd'hui. Nous pouvons aussi être tentés et dire « Quand même, en Jésus-Christ, nous sommes le peuple élu de Dieu ». Nous sommes le nouvel Israël, nous avons été élus dès la fondation du monde pour que nous appartenions à Jésus-Christ et que nous constituions son peuple avec Jésus-Christ comme tête. Mais qu'est-ce que ça fait comme différence aujourd'hui? Finalement, nous avons tous nos problèmes comme nos voisins. Nous ne sommes même pas épargnés du Covid. Nous sommes au Seigneur, mais il nous arrive quand même aussi d'être au chômage. Nous sommes au Seigneur. Mais nous sommes quand même vulnérables face à la maladie. Et nous pouvons tomber malades. Et même certains peuvent en mourir. Et certains, même dans cette salle, ont pu être touchés de près par cette mort. Nous sommes au Seigneur et cela n'a pas empêché que cette semaine, la guerre se déclenche en Ukraine. Vous voyez, nous pouvons raisonner comme le faisaient les concitoyens de Malachi. Et la même réponse de Malachi et donc de Dieu reste valable pour nous encore aujourd'hui. Oui, à court terme, quand on voit les choses superficiellement, sans voir l'ensemble, sans avoir la patience d'attendre, il peut sembler que l'élection divine n'est pas vraiment efficace. Mais attendons et entendons le Seigneur qui, dans son amour souverain, nous dit... C'est le début du texte. Je vous ai aimé. Je vous ai aimé. Et avant de conclure, j'aimerais creuser avec vous ce « je vous ai aimé » qui s'applique à nous encore aujourd'hui. Je voudrais le faire en dépassant un peu les paroles stéréotypées qui sont souvent dans notre bouche. Nous sommes d'abord et déjà au bénéfice de l'amour initial de Dieu. De l'amour créateur de Dieu pour l'humanité, qu'il n'ait été altéré et dégradé par la chute. Mais nous avons encore de beaux restes qui sont visibles, qui sont tangibles. La beauté de la création, de la nature, des levées du soleil, des bourgeons au printemps, beauté de la pluie bienfaisante et de toutes les merveilles de Dieu que l'on peut voir quand on prend le temps de regarder. Et ces derniers jours, vous avez pu admirer de magnifiques couchers de soleil, de magnifiques levées de soleil également. Vous avez parfois des émissions de télévision qui souligne la beauté de la création. C'est une réalité, Dieu nous a aimés. Les merveilles du corps humain, la beauté d'un regard, d'un sourire qui traduit un sentiment d'amour, ce sont des réalités qui existent et qui s'inscrivent dans le cadre de ce « je vous ai aimé » de Dieu. Les merveilles de la procréation, de la naissance d'un enfant, c'est fabuleux. Les merveilles de toute nature dans la création, ce sont des réalités que tout le monde peut voir de ses yeux. Nous sommes aussi au bénéfice d'autres merveilles lorsque nous sommes associés à Dieu. Nous bénéficions d'une échelle de valeurs renouvelée par rapport aux valeurs du monde. Monde qui volontairement ou involontairement a rejeté Dieu. Et l'on peut sans peine mesurer les conséquences humaines de l'abandon des valeurs fixées par Dieu. Par exemple sur la famille. Des familles qui sont brisées, des enfants qui sont désorientés quand il y a eu l'abandon des valeurs divines. Nous bénéficions aussi de la puissance de la réconciliation et du pardon. Quand on voit les efforts des hommes pour éviter des affrontements guerriers comme ces derniers jours, eh bien, quand elles sont acceptées, ces valeurs de réconciliation et de pardon, eh bien, qui sont transmises par Dieu, eh bien, conduisent à la paix, à la réconciliation. Quelle bénédiction quand on peut reconstruire une relation brisée, même si cela demande du temps, même si cela coûte. Pensez à la conversion de l'apôtre Paul. C'était un ennemi violent des chrétiens qui a été complètement, sa vie a été complètement transformée par l'amour de Jésus-Christ. Une transformation n'est pas imaginable ni possible sans l'amour de Dieu. Mais on voit que cela nécessite d'embrasser, d'adhérer aux valeurs divines, de les accepter et de les vivre. Ne pas rechercher le gain pour le gain. Ne pas rechercher les honneurs, la première place, la plus belle position. Accepter la prévenance de Dieu comme un enfant doit accepter la prévenance des parents. Certes, l'enfant peut mettre du temps à comprendre certaines dispositions pratiques de vie en apparence contraignantes que lui imposent ses parents, mais en fait, ce sont des mesures de sagesse. Et Dieu nous impose aussi à nous des mesures de sagesse que nous avons peut-être parfois aussi du mal à accepter, mais quand on les accepte, eh bien, on va dans le positif. Et au sommet de l'amour de Dieu figure évidemment tout ce que Dieu a mis en place pour assurer notre salut, pour assurer notre retour dans son plan bienveillant pour nous, à savoir le salut en Jésus-Christ. Quelle bénédiction est la nôtre de savoir que nous serons un jour avec le Seigneur pour l'éternité. La perspective de la mort est certes difficile à envisager quand on considère la douleur de la séparation d'avec ceux qu'on aime. Mais elle est tellement apaisée, cette douleur, et elle devient même lumineuse quand on réalise la suite de l'éternité auprès du Seigneur. Je ne dis pas que la perte d'un proche chrétien est anodine, loin de là. Mais quelle tristesse et quel vide on peut ressentir lors de l'enterrement de quelqu'un qui n'a pas connu Jésus-Christ. Aucune perspective et une tristesse et un désarroi très profond. Voilà la perspective que l'on a. Et on peut aussi lister tous les attributs de Dieu qui caractérisent et nourrissent son amour et qui peuvent exercer une influence vivifiante sur nous. Alors là, la liste est très longue. Je vais juste faire une lecture simple de toutes ces caractéristiques, de toutes ces influences vivifiantes. La bonté, l'amour, bien sûr, la grâce, la miséricorde, la patience, la sainteté, la paix, la justice, la beauté, la gloire, la sagesse, l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu. C'est à ces valeurs divines que Dieu nous invite à nous accrocher. Car on sait bien par expérience que l'abandon de ces valeurs dans nos vies ne conduit pas à la sérénité, mais à la tristesse, à la division, à la haine, à la jalousie, à la gloriole, au vol, à la convoitise, à la guerre, à l'infidélité, etc. Une autre marque extraordinaire de l'amour de Dieu pour ses enfants, les chrétiens dont nous sommes, c'est le don du Saint-Esprit, le don du Consolateur qui vient habiter en nous et y faire son œuvre. Et Dieu, au travers des paroles de Malachie, nous invite et nous exhorte à bien nous positionner ou à nous repositionner par rapport à son amour, et à réaliser et à apprécier son amour et à abandonner notre ingratitude. Combien de fois on peut être tenté en tant que chrétien de dire « Mais oui, mais Dieu ne m'aime pas avec la tuile qui m'arrive, avec la panne que je viens d'avoir, avec cette jambe cassée, avec que sais-je. Dieu ne m'aime pas, ce n'est pas possible. Mais si, Dieu nous aime. Certes, nous aurons des épreuves à traverser, nous aurons des efforts à fournir, mais quelle bénédiction au final. Et l'exemple de l'apôtre Paul qui, du fond de sa prison, et malgré toutes les conditions défavorables, arrivait à avoir une vie rayonnante, eh bien cela nous stimule. Il y a un premier épisode dans la ville de Philippe, où Paul est brièvement emprisonné avec son compagnon Silas. On trouve ça au chapitre 16 du livre des Actes. Et par la suite, Paul est sans doute emprisonné aussi à Troas, à Éphèse, et bien sûr, toute la fin de son parcours, lorsqu'il va de Jérusalem jusqu'à Rome, c'est un parcours de captivité, il n'est pas en pleine liberté. Eh bien, le récit qui couvre les chapitres 21-28 du livre des Actes et qui devient une sorte d'occasion de diffusion de l'Évangile, eh bien, ça se passe en étant prisonnier. Paul prisonnier, oui, mais aussi Paul évangéliste. Et Paul reconnaissant l'amour de Dieu, malgré l'enfermement, malgré la prison. Et l'expérience de la prison et de la contrainte lui permet de mieux souligner la puissance de Dieu. Et c'est très paradoxal. Voilà d'ailleurs ce qu'il nous laisse comme recommandation en Éphésiens 4, versets 1 à 4, passage qui a été vu le 13 février dans une prédication de Sylvain. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Oui, nous serions bien ingrats de dénigrer l'amour de Dieu, même au travers de nos épreuves. Que ce soit des problèmes relationnels, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes de travail ou tout autre problème, que nous sachions reconnaître cet amour. Ne cédons pas à la tentation du dénigrement de l'amour de notre Dieu pour nous. Et comportons-nous de manière digne de l'appel que nous avons reçu. Et au final, quelles seront les conséquences de l'appropriation de son amour dans toute sa réalité ? Eh bien, le verset 5 nous le dit. « Et vous le verrez de vos yeux, et vous direz, l'Éternel est grand, même au-delà du territoire d'Israël. » C'est un message prophétique qui nous concerne, nous, ici, les chrétiens, qui sommes partout dans le monde, mais aussi, donc au-delà du territoire d'Israël, mais aussi ici à Morey, Loing et Orvan. Donc au-delà des frontières d'Israël, nous pouvons voir de nos yeux, je dirais qu'on peut même toucher la grandeur de notre Dieu. Et les tristes circonstances qui touchent le monde depuis 4 jours illustrent le contraste entre les forces du mal et la grandeur de notre Dieu. Que nous puissions ne pas être ébranlés et reconnaître avec force en ce jour, la grandeur de notre Dieu et de son amour pour ses enfants, même au travers des événements actuels. Et souvenons-nous fermement, souvenons-nous fermement et restons fermement attachés à cette promesse de Jésus en Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je vous invite à la prière. Je vais en fait lire une prière qui nous a été communiquée par notre président de l'association Baptiste en lien avec les événements actuels. Alors Sylvain a déjà largement prié pour ça, mais je vais le refaire encore maintenant. Seigneur Jésus, Prince de la paix, nous te prions pour nos églises locales, et donc l'église ici de Veneux, Moret, Loing et Orvan. Nous te prions pour qu'elles soient des lieux de pardon et de réconciliation, pour qu'elles puissent refléter devant les hommes ton projet de paix. Nous te prions pour que nos églises vivent leur vocation à la paix, à la justice et à la non-violence, pour qu'elles puissent être prophétiques et poser des signes de ton règne. Tu connais la vie de chacun, bien remplie par les engagements, la famille ou le travail. Aide-nous à trouver le temps de servir ton projet de paix. Aide-nous à trouver la paix, ta paix, dans les défis et le stress du quotidien. Quand nous doutons d'être entendus, renouvelle nos forces pour que nous puissions crier jusque dans nos déserts que le chemin que tu veux pour ton peuple est celui de la paix, de ta paix. Seigneur, en ces moments de bouleversements politiques et sociaux, fais de nous, nos églises, de nos familles, un havre de paix et un lieu d'accueil. Nous te prions pour les pays qui souffrent de la guerre et de la violence des hommes. Nous entendons les populations de plusieurs pays hurler dans le monde, dans un monde sourd, mais nous avons déjà oublié bien d'autres peuples massacrés. Nous te demandons pardon pour la dureté de notre cœur, pardon pour la facilité avec laquelle nous nous habituons à la famine, au malheur et à la mort tant qu'il ne frappe pas à notre porte. Seigneur, aie pitié de ces populations martyrisées, aie pitié de nous. Touche le cœur des bourreaux et des décideurs, aide-nous à agir à notre niveau. Seigneur, nous osons te prier pour la paix dans le monde, que ton règne vienne, toi, lumière du monde, doux prince de la paix. Amen.